enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons ensemble dans la parole de Dieu en ce dimanche d'action de grâce au psaume 78. Allez au psaume 78. Nous sommes dans une série sur les psaumes et je rends grâce au Seigneur. Lorsque le Seigneur met une série de messages sur nos cœurs dans les mois d'été, j'avais cette préparation dans mon cœur d'apporter ces psaumes et on espère, nous prions et espérons toujours pour un impact, pour que des vies soient touchées à travers ces psaumes et je me réjouis de tous les témoignages que nous recevons. Je vous en lis un en débutant afin aussi d'encourager les parents ce matin et c'est une dame qui écrit un témoignage d'action de grâce et je pense que l'esprit de son témoignage va vous fortifier et est aussi dans le ton de ce que nous voulons offrir au Seigneur ce matin, c'est simplement reconnaissance, gratitude et action de grâce. Elle écrit, cher pasteur Claude, je vous écris afin d'encourager tous les parents et grands-parents dont les enfants ne suivent pas le Seigneur et qui en souffrent et pour vous remercier pour la série sur les psaumes. Nous allons nous en souvenir pour le reste de notre vie. Il y a 12 ans, nous avons arrêté d'aller à l'église par déception. Il y avait eu un scandale moral et financier dans notre Église. C'est une décision que nous avons amèrement regrettée depuis. 6 ans plus tard, nous nous sommes joints à Nouvelle Vie, nous sommes revenus à Dieu et il nous a tellement bénis. Notre douleur était que nos jeunes n'ont jamais voulu revenir à l'Église avec nous. Ils étaient très critiques envers l'Église en général, bien qu'ils en avaient connu qu'une seule, celle que nous avions quittée. Les parents qui, comme nous, se sont éloignés de Dieu et de l'Église ne réalisent pas le mal qu'ils font aux enfants. Notre garçon et notre fille, tous les deux au cégep, ne voulaient plus rien savoir. C'est plate. On s'ennuie. Il n'y a aucun rapport avec nos vies. Les pasteurs ne connaissent rien de la vraie vie, était leur réponse. Nous avons tout essayé, mais ils n'étaient jamais même venus à Nouvelle Vie en 5 ans. Aujourd'hui, ils sont à l'université et mènent la vie qui va avec. Les parties, l'alcool qui coule à flot, expérimenter avec la drogue et toutes sortes de décisions qui nous inquiétaient beaucoup. Nous avons tellement prié Dieu et il nous a répondu. Ma fille de 19 ans traversait une très dure période moralement et je lui ai donné votre premier CD sur les psaumes qu'elle aimait beaucoup, lorsqu'elle était enfant. Je lui ai remis le CD et elle m'a fait une face. Combien d'entre vous avez des ados et vous savez qu'est-ce que c'est se faire faire une face par un ado? Dites amen. Combien savent qu'il faut persévérer au-delà de leur face? Elle dit, elle m'a fait une face, mais elle l'a pris quand même. Le dimanche suivant, elle m'a dit, je vais y aller avec vous autres. 3 semaines plus tard, alors qu'elle venait à l'église, elle a avancé en avant à votre appel, en larmes. Elle voyage souvent à l'université avec son frère qui a 21 ans, et elle a commencé à le forcer à écouter la série complète sur les psaumes dans la voiture. Combien sont reconnaissants pour les sœurs qui forcent les frères à écouter la Bible? Il y a un mois, mon fils est venu et vous avez lu une lettre d'une famille qui est revenue à l'église et s'est mis à avoir les larmes qui lui coulaient sur les joues. En plus, en sortant de l'église, il est tombé sur le dos. Je lisais ceci dans mon bureau, j'étais juste émerveillé de la grandeur de Dieu qui orchestre et organise toutes choses. Dieu qui a organisé tout ça simplement pour toucher ce jeune homme-là. Il dit, en sortant de l'église, il est tombé sur le dos le premier dimanche qu'il est revenu. Il a rencontré son meilleur ami de notre ancienne église, qui étudie comme lui pour être ingénieur, lui aussi, et qui vient à Nouvelle Vie. Ils font maintenant du sport ensemble, mon fils a arrêté de consommer, et ils s'assoient ensemble à l'église pour écouter la série sur les psaumes. Je veux dire aux parents de ne jamais lâcher. Je comprends que nos gestes et nos paroles ont une si grande influence sur nos enfants et que Dieu répond à nos prières. On a prié pendant 6 ans, mais ça vaut la peine. J'aimerais que vous lisiez notre lettre le dimanche de l'Action de grâce, c'est fait, parce qu'on est en toute la famille très reconnaissante à Dieu et aussi parce que peut-être que ça va aider quelqu'un. Vous pouvez vous dire amen en ce dimanche d'Action de grâce pour la parole de Dieu qui est puissante. La parole de Dieu qui est puissante. Nous avons vu ensemble des psaumes de protection, des psaumes de la parole, des psaumes de proclamation prophétique, des psaumes de participation du peuple et des psaumes de passion pour les pauvres la semaine dernière. Et nous allons voir dès la semaine prochaine des psaumes de puissance, comment trouver, multiplier la puissance de Dieu. Dimanche prochain, le message est le psaume où Dieu dit, « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. » Nous allons regarder à l'appel et surtout aux ressources et au comment obtenir la puissance de Dieu dans nos vies. Dans les prochaines semaines, des psaumes de percée spirituelle, des psaumes de sa présence, des psaumes de prière et de plénitude. Et ce matin, ce que nous appelons le psaume, un psaume de prodige. Un psaume en ce dimanche d'Action de grâce qui célèbre les prodiges de Dieu et nous appelle à être reconnaissants. Et en ce dimanche particulier d'Action de grâce, j'aimerais vous inviter à vous lever avec votre Bible dans les mains si vous voulez bien. On va se lire pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire le psaume 78. Et si vous n'avez pas de Bible, le psaume va apparaître à l'écran alors que nous allons lire les versets 1 à 22 ensemble. Psaume 78. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche avec une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance, les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob. Et dans ce lieu ce matin, il a des milliers de témoignages de ce que Dieu a fait. Et il a mis une loi en Israël et a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que connaissent ceux de la génération future, des fils qui naîtront. Ils se dresseront et ils le rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leurs pères. Une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm armés, tirant de l'arc, mais tournant le dos le jour du combat, qui ne gardaient pas l'alliance de Dieu et refusaient la loi de marcher dans ses lois, qui avaient oublié ses hauts faits et les miracles qu'il leur a fait voir. Verset 21, le verset 12 à 20, vous pouvez remplir vous-même. Il raconte le témoignage d'Israël, comme nous avons chacun d'entre nous un témoignage. Verset 21. Témoignage de la bonté de Dieu. Mais l'Éternel entendit et fut en courroux parce que le peuple était ingrat. Un feu s'alluma contre Jacob. La colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu et parce qu'ils n'avaient pas mis leur confiance en son salut. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, je te prie maintenant que tu fasses monter de nos cœurs l'action de grâce. Que tu puisses faire de nous et nous apprendre et nous corriger et nous apprendre et nous enseigner dans des voies qui reconnaissent l'importance spirituelle de la reconnaissance. Je prie pour une libération de tout esprit d'ingratitude, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui refuse de voir ou de croire en tout ce que Dieu a fait déjà. Nous voulons que tu regardes à Longueuil et à nos vies dans les prochains mois et années et que tu vois en nous des hommes et des femmes qui reconnaissent la bonté de Dieu et qui marchent avec une attitude d'émerveillement perpétuel. Et c'est ça que nous voulons communiquer à nos enfants. Que ton Saint-Esprit vienne puissamment dans ce lieu ce matin. Et Seigneur, avant même que nous entrions dans ce psaume, plongeons dans ce psaume, nous voulons te dire merci pour toutes tes bontés. Et il y a un peuple entier qui applaudit ta bonté et ta grandeur dans le nom de Jésus et tous ceux qui sont reconnaissants disent Amen et Amen et Amen. Applaudissez le Seigneur avec moi. Et vous pouvez prendre place en sa présence. Dans ce psaume 78, il y a l'attention, l'appel à porter attention, l'attention de l'action de grâce, l'appel de l'action de grâce, l'avertissement, et l'apprentissage de l'abondance de l'action de grâce. Ce psaume commence en appelant à notre attention, parce qu'il y a un message très, très important. Il dit, « Mon peuple, prêtez l'oreille à mon message. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche avec une parabole. » Le mot « parabole » dans l'hébreu, « massal », veut littéralement dire « une comparaison ». Un énigme des temps anciens, c'était une des façons dans la pensée hébraïque que l'enseignement se faisait, une parole, une comparaison était lancée afin qu'on puisse se trouver, qu'on puisse se comparer à ce que nous voyons. Un énigme des temps anciens, a riddle, une espèce de question qui est posée en commençant, qui nous amène à une réflexion profonde. Et la question est celle-ci, comment la narration de l'échec d'un peuple peut-elle conduire à un futur d'espoir, d'exploit? Pour nous, pour l'Église et pour nos enfants. Comment alors qu'on voit dans le psaume 78 un peuple qui a manqué de reconnaissance et tout ce qui leur est arrivé, comment est-ce que ça peut nous former, nous enseigner, nous, et nous épargner, et nous sauver, et nous amener dans des voies particulières? Il y a une des voies de plénitude. Il y a une attention qui est demandée. Je prie que le Saint-Esprit capte votre attention dès le début de ce message. Les psaumes 105, 106, 136 et 78 sont appelés des psaumes historiques. Mais pas historique dans un sens de nom, de lieu, de date et d'événement, simplement pour lire des choses qui sont passées, mais pas afin de simplement communiquer de l'information, mais plutôt afin de communiquer un principe, une révélation. Le psaume 78 nous appelle à cultiver et à communiquer un esprit, une attitude, un éthos, un état d'âme, une façon d'être, un style de vie, de reconnaissance et de gratitude, d'action de grâce et surtout d'émerveillement perpétuel. Ce que Dieu désirait de chaque croyant, une des marques de la vie de l'esprit et un des secrets du bonheur pour un croyant, c'est d'être animé et de cultiver et de répandre continuellement un esprit simplement d'action de grâce. Je suis perpétuellement émerveillé par ce que Dieu fait. Cet esprit-là, il est en totale contradiction avec l'esprit du monde dans lequel nous vivons. L'esprit du monde dans lequel nous vivons est un esprit revendicateur. Donne-moi-en plus, c'est le temps de négocier. Écoutez-moi bien le patronat. J'ai eu mon augmentation, c'est pas assez. Vous avez jamais entendu une négociation se terminer avec quelqu'un disant « je suis heureux », jamais. Jamais terminer en disant « merci ». Nous vivons dans une société qui toujours veut plus, jamais ne voit ce qu'elle a, toujours désire plus, toujours est insatisfaite, toujours envie l'autre, voit ce que l'autre a. Et ce que je pense, les gens, les célibataires de l'Église envient les gens mariés. Beaucoup de gens mariés envient les célibataires. Envie ça, les possessions que l'autre a. Envie la vie, le statut, le rang, la position, la place. Envie ce qu'il semble avoir. Et l'esprit chrétien, l'esprit de Dieu, l'esprit de maturité est un esprit complètement à l'envers de ce monde sociétal qui veut simplement revendiquer tout le temps. C'est un esprit de contentement et un esprit qui cultive « je suis tellement béni avec ce que Dieu m'a donné ». Je remercie Dieu pour mon épouse, mon époux. Je remercie Dieu pour la femme que j'ai. Je remercie Dieu pour les enfants. Je remercie Dieu pour la santé qu'il me donne, pour mon emploi. Je remercie Dieu pour le pays dans lequel nous avons. Je remercie Dieu pour l'abondance en ce matin où au Pakistan, c'est probablement 25 000 personnes qui sont décédées ou des centaines de milliers ont été englouties, n'ont plus de maison. En ce matin ou à travers le monde, des gens que nous ne méritons pas mieux qu'eux. Nous n'avons pas de droit plus grand qu'eux. Leur questionnement de la journée va pas être comme nous. À quel restaurant on va aller dîner cet après-midi. Leur questionnement va être, est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Il y a quelque chose qui a besoin d'être recommuniqué par l'Esprit de Dieu, de simplement, dans nos vies, d'avoir un sentiment de merci Seigneur, d'action de grâce, de tu es bon, je suis émerveillé par toi. Quatre fois dans le psaume 78, vous trouvez le mot prodige. Ça parle de puissance, de haut fait, les miracles, les grâces extraordinaires, les bontés de Dieu. Et l'occasion et le contexte du psaume 78 est important. Ce psaume d'Asaph semble nécessité et écrit en réponse à la jalousie et l'envie de la tribu d'Éphraïm à l'égard de la tribu de Juda sous le leadership de David. Le sanctuaire représentant la bénédiction, la faveur et la présence de Dieu avait été placé à Silo dans le territoire de Juda. Et lorsque Dieu, par l'entremise de David, a choisi ainsi Juda, la tribu d'Éphraïm a éclaté avec accusation, ingratitude, mépris, blâme, jalousie, envie, amertume. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Comment ça se fait? Favoritisme, c'est pas juste. Mais Dieu leur enseigne puissamment dans ce psaume que ce qu'ils considèrent une injustice est en fait son jugement sur leur attitude d'incrédulité, leur manque de reconnaissance passée qui les a conduits à la désobéissance et à la rébellion. Tellement de gens aujourd'hui, en ce moment, ce message peut être tellement puissant pour vous et ceux qui vont l'écouter par le truchement de la radio, parce qu'il y a tellement de gens qui, en ce moment, sont dans l'état exact, dans l'état tristement le même que la tribu d'Éphraïm. Vous enviez, vous méprisez, vous critiquez, vous sentez un sentiment d'injustice perpétuelle, de critique perpétuelle, et peu à peu, vous n'en voyez plus que et ce que vous considérez être la faute de quelqu'un d'autre ou une injustice de quelqu'un d'autre est le fruit, en fait, de votre conduite. de votre manque de reconnaissance, de votre manque de gratitude, de votre manque de marche avec Dieu dans simplement un cœur qui apprécie tout ce que Dieu lui donne. Et cette ingratitude a conduit à une désobéissance qui vous a conduit à fermer le ciel sur votre vie. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de ces quelques minutes de ce message, nous allons briser ce pattern. La vérité de Dieu va libérer votre cœur de ce joug et vous allez pouvoir entrer dans un cycle de gratitude qui produit la bénédiction de Dieu sur votre vie. Dans le psaume 78, il y a un pattern. Le psaume se développe de cette façon. La chronologie du psaume, si on lira au complet, c'est un psaume qui a 72 versets. Si vous lisez au complet, vous allez voir que c'est comme si le même psaume se répétait deux fois. Il y a la même vérité, un message de gratitude, un appel à la reconnaissance qu'on a lu, et deux fois un pattern chronologique qui revient. Et dans la pensée hébraïque, le pattern chronologique répété deux fois indique l'extrême importance, la gravité et l'urgence du message, comme si Dieu disait, manquez-le pas la première fois, je reviens une deuxième fois. Une description d'une succession d'étapes et d'événements applicables de façon universelle. Il décrit un pattern du peuple d'Israël et les commentateurs ont toutes sortes de questionnements à savoir, toutes sortes d'hypothèses parce que ça pourrait correspondre à tellement de périodes de l'histoire qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt pour dire c'est sur laquelle. Et moi, je suis de ceux qui croient, comme beaucoup de commentateurs, que la raison pour laquelle elle semble si correspondante à une large portion de l'histoire, c'est que Dieu, son intention, n'était pas de cibler seulement un événement du passé, mais ce pattern-là de manque de reconnaissance qui produit des choses terribles dans nos vies et qui doivent être confrontées et repenties et présents jusqu'à nous en 2005. Dieu dit, je vous expose deux fois ce qui est arrivé tellement de fois à des croyants de tous les âges. Et nous, on regarde dans le miroir. On regarde dans le miroir de la parole de Dieu ce matin. Dans le psaume 78, regarde bien le pattern qui leur est arrivé et qui peut-être vous est arrivé, qui peut et qui a et qui peut arriver à chaque personne ici et contre lequel nous sommes gardés en ce dimanche d'action de grâce. Il y a un pattern. La richesse des bontés, des actes, des prodiges et de la fidélité de Dieu. Dieu est bon, il est riche, il est comble de bénédictions. La rébellion d'un peuple ingrat qui lui critique et méchant, qui ne voit pas, choisit de ne pas voir, ne se satisfait jamais. Vous le lisez et vous avez les versets qui sont là dans les notes qui sont toujours disponibles pour vous. Vous avez ces deux fois la même pensée qui est amenée. Le rejet et la rébellion de ce peuple amènent toujours le rejet et la colère de Dieu. Si vous croyez, c'est assez saisissant pour moi que le peuple évangélique moderne et le peuple pentecôtisant moderne veut clamer et veut réclamer que Dieu n'a pas changé. Dans une église, dans une vraie église qui croit en un Dieu qui ne change pas, si nous déclarons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il guérit, il délivre, il remplit, il console comme il l'a toujours fait, l'église dit amen. Mais la même église, et moi je dis amen aussi fort que vous, mais la même église, lorsqu'arrive le moment, lorsqu'elle lit d'un Dieu dont le comportement du peuple provoque en lui une colère, que lorsque le peuple est ingrat et que Dieu les bénit, que le peuple continuellement se tourne, critique et murmure, que ça provoque la colère, le rejet, le jugement de Dieu, là les gens disent non, le Seigneur a changé, pas comme ça, il n'est pas comme ça aujourd'hui, ça n'arrive plus, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est la loi. Je veux vous dire que Dieu encore aujourd'hui désire une relation avec son peuple, que Dieu est immuable, qu'encore aujourd'hui, il ressent cette colère. Encore aujourd'hui, notre ingratitude peut fermer le ciel, peut amener son jugement sur notre vie. Et le cycle est là dans le psaume. Richesse, rébellion, rejet. Et la relation, parce qu'il est tellement un Dieu d'amour et de compassion, la restauration de la relation par un Dieu de compassion et de bonté. Et là, vous avez trouvé à plusieurs endroits. Dieu tend sa main, puis vient les chercher, et il est béni. Et vous lirez le psaume, il est tellement saisissant. Le psaume dit des choses comme, alors qu'ils étaient perdus, alors Dieu est venu les rechercher encore. Dieu est venu les rebénir encore une fois. Il leur a redonné à manger, il les a bénis. Et alors qu'ils avaient encore la nourriture dans leur bouche, ils se sont mis à douter de lui. Et ce cycle-là, il est là. Et c'est un cycle que vous pouvez arrêter ce matin. Le psaume vous appelle à porter attention à ce cycle. Et le psaume nous appelle à l'action de grâce. Il y a l'attention de l'action de grâce, mais nous appelle à briser ce cycle. Dieu, voici ce que Dieu voudrait de nous. Ce matin, l'action de grâce. Dieu a capté mon attention et moi, je veux répondre à l'appel de l'action de grâce. Moi, je veux répondre. Je vois ce cycle-là, je ne le veux pas dans ma vie. Chaque pasteur qui est ici a vu des gens qui avaient des appels, des gens qui avaient des ministères, des gens qui avaient un riche héritage de la grâce de Dieu, tout bousillé, tout perdre, communiquer la mort à leurs propres enfants, sur de longues années en entrant dans ce cycle où ils sont ingrats. où ils manquent de reconnaissance, où ils ne veulent pas cultiver ce cœur simplement qui apprécie, où leur spécialité est de voir ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'apprécient pas, ce qui ne va pas, où tu peux déverser en eux des tonnes et des années de bénédiction et ça passe à travers eux, il n'y a rien qui reste. Et une chose, une parole, une chose qui les offense, ça c'est magnifié et rendu grand et c'est ça qui les nourrit, puis c'est de ça qui nourrit sa famille. Et dans cet esprit, dans ce pattern-là, il y a la voix de l'esprit qui appelle et qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser ce cycle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sauver sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut épargner son avenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apaiser la colère de Dieu et ouvrir sa compassion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à l'appel de la bonté de Dieu et l'appel de la reconnaissance devant Dieu? Et moi, je veux répondre à cet appel ce matin. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, ses miracles. Le Seigneur dit, voici ce qui doit alimenter, voici ce que je veux entendre autour de la table du souper, voici ce que je veux entendre dans la chambre à coucher, voici ce que je veux entendre dans le sous-sol, voici ce que je veux entendre à l'église, voici ce que je veux entendre au restaurant le dimanche après-midi, les bonnes choses de l'Éternel, les miracles qu'il a fait, les prodiges qu'il a fait pour nous. Il a dressé un témoignage pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils qui vont naître, qui vont se dresser, qui vont le dire à leurs fils, ils vont mettre leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. J'aime cette citation de Martin Luther, même si elle date de centaines d'années. Il a dit, « Voyez à ne jamais oublier ce que vous étiez auparavant, afin de ne jamais devenir quelqu'un qui prend avantage et prend pour acquis la grâce et la miséricorde qu'il a reçue de la part de Dieu. » Qui méprise le Dieu de toutes nos bontés en négligeant d'exprimer sa gratitude à chaque jour. Entendez la voix de l'Esprit ce matin qui nous appelle. La voix de l'Esprit qui nous appelle à la reconnaissance. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Hébreux 3:7, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, si vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de l'ingratitude ou de la révolte ou de l'incrédulité, où ils virent mes œuvres pendant 40 ans, mais ils murmurèrent et je fus en colère contre cette génération. Cette semaine, on était en jeûne et prière. Je disais à mon épouse en venant, c'est fascinant pour moi, à chaque fois qu'on se retire pour aller jeûner et prier, après quelques minutes, quelques heures à chercher la face de Dieu, une des choses qui remplit notre cœur, c'est la gratitude. Tu passes du temps dans l'Esprit de Dieu puis tu commences à dire, « Et que le Seigneur est bon. » Et qui est magnifique. Et nous sommes bénis. Je regardais les gens qui étaient autour et j'étais tellement reconnaissant pour eux. J'étais reconnaissant pour chaque personne. Nous prions pour l'Église Nouvelle Vie. J'étais reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. J'étais reconnaissant. J'avais des moments de prière dans ma propre solitude de ma chambre. Il y avait des moments d'intense reconnaissance. Et j'aimerais vous proposer que le Seigneur dit, si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, tu n'endurcis. L'Esprit dit, si tu entends ma voix, tu n'endurciras pas ton cœur. J'aimerais vous proposer qu'il est impossible d'être dans la présence de Dieu, d'aller à chaque jour dans la présence de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'aller en prière, d'aller à des réunions de prière, d'être dans la présence du Seigneur et de garder un cœur qui est ingrat. Impossible. Car la plupart du temps, les personnes qui sont dans des cycles d'ingratitude sont des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils ont délaissé le lieu secret. Longtemps qu'ils ont délaissé. Et là, à ce moment-là, c'est leur âme, c'est ce qui est flesh, ce qui est chair qui prend le dessus. C'est tout cela. Il y a un appel de l'Esprit, puis il y a un appel de Jésus même. Lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, vous connaissez le récit, il a guéri les 10 lépreux, il y en a 9 qui ont été guéris de la lèpre. Une minute auparavant, leur vie était finie. Ils étaient séparés de tous. Ils avaient tout perdu. Ils étaient en route vers la mort, la souffrance, l'agonie, le rejet, l'isolement. Et alors que Jésus les touche, ils sont guéris, entièrement guéris. Il y en a 9 sur les 10 qui sont même pas venus lui dire merci. Faut-vous les entendre? Ah, c'est bien beau d'être guéri, là, mais j'aime pas ma job. Puis ma femme, je suis guéri de ma lèpre, mais ma femme, c'est encore ma femme. Puis mes enfants, ça va pas bien. Puis mon église, je te dis. Puis t'arrives telle chose, puis t'arrives telle affaire, puis j'ai pas telle autre chose, puis telle autre chose. Puis j'ai pas la position que je voudrais, C'est quelqu'un marche à côté de lui, dit, mais oui, mais t'étais lépreux! Puis il y en a un qui vient. Il se jette aux pieds du Seigneur, puis se met à lui dire merci. Merci Seigneur. Et Jésus répond de cette façon. Et voici ce qu'il dit ce matin. Jésus dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Moi, je veux me mettre à genoux. Vous me pardonnerez ce matin, mais moi, je veux me mettre à genoux à côté du lépreux. Je veux me mettre à genoux à côté de lui et dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Il s'est mis à glorifier Dieu à haute voix. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui a rendu grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Est-ce que juste lui qui vient me remercier? Un Samaritain était hors de la famille juive qui, depuis des siècles, marchait dans la bénédiction de Dieu. Jésus dit, comment ça se fait que c'est lui? C'est le petit nouveau seulement. Est-ce qu'il y a seulement les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur qui vont me rendre action de grâce? Ou est-ce que je peux avoir des croyants de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui vont se prosterner ce matin et dire, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, tu es bon, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Ensemble, est-ce qu'on peut lui dire merci? L'attention de l'action de grâce, l'appel de l'action de grâce et l'avertissement de l'action de grâce. Alors que j'arrive à la fin du message, il y a dans le psaume 78 un avertissement saisissant qui va sauver votre vie ce matin. Je crois de tout mon cœur, pas à cause du prédicateur, mais à cause de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des centaines de familles que si vous ouvrez votre cœur dans les prochaines minutes, il y a un cycle infernal dans votre vie qui va être brisé suite à la prédication ce matin. Il y a des choses que l'ennemi avait préparées pour vous, qui avait l'intention de faire arriver, qui étaient enclenchées en vous, qui vont être brisées par l'onction du Saint-Esprit. Alors que vous allez comprendre à quel point que d'avoir un cœur de reconnaissance est absolument vital, essentiel, obligatoire et salutaire. Et que vous allez comprendre avec crainte et tremblement la gravité de ne pas avoir un cœur d'action de grâce, un cœur qui n'est pas rempli de merci. Merci pour vous, merci pour les gens, merci pour Dieu, merci pour mon Église, merci pour les serviteurs de Dieu, merci pour mes enfants, merci pour mon travail. Que lorsque ce cœur-là d'action de grâce n'est pas là, il y a un avertissement divin dans le psaume 78. Je ne prêcherai pas chacun des points, je veux simplement que vous le voyez avec moi alors qu'on suit le psaume 78. Voici maintenant l'avertissement de Dieu aux chrétiens ingrats. Un portrait prophétique pour nous en 2005. Voici ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas rempli d'action de grâce. Dieu dit, ils deviennent désobéissants et rebelles. Dans le verset 8, il dit, ils n'auront plus un cœur pour moi. Ils vont avoir un cœur qui va être désobéissant à moi. Leur cœur ne sera plus tout entier à moi. Ils ne seront pas fermes. Ils ne peuvent plus être fermes ou fidèles parce qu'ils sont en perpétuel sentiment d'ingratitude devant Dieu. Ils tournent le dos au jour du combat. Le verset 9 dit, ils arrivent à un moment, ils ont toutes leurs armes, mais ils ne s'impliquent jamais. Ils ne se donnent jamais. Ils ne combattent jamais le vrai combat parce qu'ils ne peuvent plus combattre contre l'ennemi pour les armes parce qu'ils sont en combat contre la chair et le sang. Lorsque nous sommes ingrats, on ne peut plus s'impliquer. Lorsque nous sommes ingrats, notre ingratitude devient l'excuse pour laquelle je n'ai pas besoin de m'impliquer, je ne peux pas m'impliquer parce que je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait, je n'ai pas ce que je voulais, etc., etc. Ils tournent le dos le jour du combat. Je vais vous dire ceci, la connaissance ne garantit pas la fidélité. C'est la reconnaissance qui cultive la fidélité. Le verset 3 dit, ces gens-là connaissaient, on leur a communiqué la vérité. Ils ont même eu une période où ils l'ont communiqué eux-mêmes à leurs enfants, mais ils ont laissé l'ingratitude entrer dans leur cœur. Puis maintenant, c'est un portrait de l'Église moderne, de gens qui sont chrétiens depuis 20 ans ou 15, 20 ans, qui ont accepté le Seigneur, avaient un cœur reconnaissant. Ils ont commencé à communiquer à leurs enfants leur gratitude envers Dieu. Puis alors que les années ont passé, leurs enfants ont grandi avec des parents qui sont maintenant devenus ingrats, critiques, murmures, froids, sans reconnaissance. Et alors qu'ils ont eux-mêmes, à une certaine époque, parlé de la gratitude de Dieu, maintenant, ils ne sont plus impliqués dans le combat. Ce n'est pas de connaître. Ils ont la tête pleine de connaissances. Ils l'ont même déjà donné à d'autres. Ce n'est pas la connaissance qui assure la fidélité. C'est un esprit de reconnaissance qui cultive la fidélité dans nos cœurs. Voici ce qui arrive. Ils accroissent leur péché peu à peu. Ils voient leur ingratitude, leur raison, leur grief comme des raisons pour pouvoir pécher de plus en plus. Verset 17, ils accrurent leur péché contre Dieu. Ils se révoltent contre Dieu et son peuple. Ils doutent continuellement. Ils ne lui font plus confiance. Le verset 18, il dit, ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils parlent même contre Dieu. Verset 18, ils parlèrent contre Dieu. Ils provoquent sa colère parce qu'ils ne croient pas en lui. Ils s'endurcissent horriblement. Le verset 32 dit, « Malgré tout cela, ils péchèrent encore. Ils ne crurent pas à ces miracles. Dieu les bénit et les bénit. Dieu les épargne. Dieu les sort du trou. Mais leur cœur s'endurcit toujours. Ils mentent à Dieu et aux hommes. » Au verset 36, « Ils voulaient séduire Dieu par leurs paroles. Ils lui mentaient avec leur langue. Ils disent qu'ils sont croyants. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais toutes leurs actions est entièrement contraire. Ils attristent profondément Dieu. » Ça, c'est une autre chose que les gens semblent oublier qu'en 2005, que le Dieu immuable est encore absolument sensible et capable de pleurer sur nous, d'avoir de la peine suite à notre ingratitude, de la peine suite à notre manque de reconnaissance. Ils oublient entièrement tout ce que Dieu a fait pour eux. Le verset 42, ils ne se souvinrent pas de sa puissance. Ils ont complètement oublié le jour où il les avait libérés de l'adversaire, ni des signes qu'ils avaient fait paraître en Égypte, ni des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Vous comprendrez qu'un chrétien qui est dans cet état n'est plus très attrayant. Il n'est pas attrayant pour ses enfants, il n'est pas attrayant pour les gens autour de lui. Il ne témoigne pas, il ne parle pas de sa foi, parce que lui, il est dans le vinaigre des griefs. Il baigne dans un vinaigre de griefs, dans un vinaigre où si tu le connaissais juste aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour lui. Il s'épuise sans la faveur de Dieu. Au verset 46, il dit, « Il livra leur récolte au criquet, le produit de leur fatigue est livré à leur ennemi. Leur vie devient épuisante. Ils deviennent indifférents aux avertissements. Ils n'ont aucun respect ou crainte de Dieu. » Le verset 33 dit, « Ne tremble plus. » Le verset 53, « Ne tremble plus. » Verset 56, « Ils ne prennent plus garde à ces avertissements. Ils perdent la présence de Dieu. » Ils abandonnent la maison de Dieu. Verset 60, ils délaissent la demeure de Silo, la tente où demeurait, où Dieu demeure parmi les êtres humains. Ils perdent leur puissance et c'est la captivité qui vient sur eux. Leur splendeur est perdue et c'est l'adversaire qui les attaque. Ils contaminent leurs fils et leurs filles de leur attitude d'ingratitude et de désobéissance. Verset 63, il dit, le feu dévorera leurs fils et leurs jeunes filles ne reçoivent plus de louanges. Leurs jeunes filles ne sont plus là dans la maison de Dieu, ne reçoivent plus un bon témoignage. Leurs jeunes fils sont consumés par le feu. Ils contaminent. Lorsque tu vieillis comme moi, je vieillis, j'ai le privilège, la joie, vous vieillissez tous, mais comme moi qui sers le Seigneur depuis des années dans la maison de Dieu, j'ai la joie et le privilège de voir maintenant les fils adultes mariés avec des enfants que j'ai connus alors que j'étais ami avec leurs parents et qu'ils étaient des jeunes hommes de 12-13 ans dans mon groupe de jeunesse, maintenant sont devenus des adultes. Et c'est une loi hallucinante. Il y a des parents qui sont complètement donnés à Dieu, que les enfants ne suivent pas le Seigneur en ce moment. Mais il y a énormément de ce que nous sommes que nous allons communiquer à nos fils et à nos filles. Et les parents qui sont ingrats, les parents qui sont murmurants et critiqueurs, habituellement élèvent une génération de jeunes adultes qui ont ce même esprit. Ils sont ou plus à l'église, ou s'ils le sont, c'est assez hallucinant. Les pasteurs de jeunesse du présent vivent maintenant avec les fils ce que nous vivions avec les pères et les mères il y a des années. Il y a une contamination qui prend place. Il y a aussi une perte terrible, perte de sensibilité spirituelle. Il dit, les sacrificateurs tombent par l'épée, verset 64, et les veuves ne pleurent même pas. Ton mari arrête de servir Dieu, ça ne te fait même pas de peine. Ta femme ne répond plus à l'appel de Dieu. Mais tu es tellement pris dans ta critique que ça ne te fait même pas pleurer. Tu as perdu ta sensibilité. Tu as perdu ta crainte. Tu as perdu la joie de la présence de Dieu. Et tu as aussi perdu, tu es en position de perdre même ta destinée. Les jours se perdent, leurs jours se perdent en futilité et se terminent dans des choses vaines. Le verset 33, il dit, à cause de cela, Dieu mit fin à leurs jours dans la vanité. Et leur fin de leurs années s'est passée dans la peur. Ils vont terminer leur vie dans les choses vaines. Alors la question se pose, il y a une attention, Dieu nous appelle à l'attention. Il y a un appel à l'action de grâce. Il y a l'avertissement de l'action de grâce. Comment est-ce que la narration de cet échec peut-elle produire quelque chose de positif en moi? Je porte attention, je réponds à l'appel, je considère l'avertissement et je veux apprendre l'abondance de l'action de grâce. Je vois, savez-vous, la leçon du psaume, c'est que le contraste saisissant, regarde tout ce que l'ingratitude te fait perdre et regarde maintenant tout ce que le cœur reconnaissant va produire en toi. Regarde toutes les bénédictions que ça va t'apporter. Regarde maintenant tout ce que ça va t'apporter. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils seront reconnaissants. Ils offriront action de grâce. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils obéiront à ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération ingrate et rebelle qui n'a pas été fidèle à Dieu. Blaise Pascal a dit, la gratitude, c'est la mémoire du cœur. Je veux avec mon cœur me rappeler, reconnaître tout ce que Dieu a fait pour moi et cultiver cet émerveillement dans mon esprit. William Law, je vais inviter les musiciens à s'approcher. William Law, était appelé à écrire un petit livre qui s'appelle, il y a des années, on parle au 1600 à 1700, un livre qui s'appelait Serious Call to Holy Living. Et ce petit livre-là a produit un réveil. Il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est le livre à part de la Bible, bien sûr, mais qui a fait les plus grands réveils dans l'histoire. C'est un livre qui a été lu par des milliers, des églises étaient révolutionnées, des milliers et milliers de personnes arrivaient à la repentance en lisant ce livre. C'est un homme à qui j'ai lu ce livre-là. C'est un livre très simple. Mais William Law a dit ceci. Si je pouvais vous dire le chemin le plus sûr et le plus certain vers toutes les bénédictions et vers le bonheur authentique et véritable, ce serait de faire une règle pour vous-même, de remercier Dieu et de le louer pour tout et à travers tout ce qui vous arrive. Car il est certain que quel que soit ce qui semble être une calamité ou une épreuve que vous traversez ou qui peut vous arriver, que si vous louez et remerciez Dieu, si vous apprenez à rendre grâce à Dieu, vous transformerez l'épreuve en bénédiction. Pouvez-vous dire amen, Église Duvalier? Si vous pouviez faire des miracles, vous ne pourriez pas faire plus pour vous-même qu'en étant animé de cet esprit merveilleux. Car il guérit par un simple mot de reconnaissance à Dieu et envers les autres. Et il transforme tout ce qu'il touche en bonheur. Le psalmiste le dit de cette façon. Les peuples t'offrent des actions de grâce au Dieu. Ils te remercient et ils te célèbrent. Ils te disent merci afin que la terre puisse produire d'abondantes récoltes et que toi, notre Dieu, tu puisses nous bénir. Que lorsque nous entrons dans l'action de grâce, notre ami Sébastien va commencer à jouer, que lorsque nous entrons dans l'action de grâce, nous libérons sur notre vie, sur nos enfants, la bénédiction, l'abondance. Et c'est vraiment une loi de l'œuvre. Hein? C'est une loi pour les serviteurs de Dieu qui sont ici, tous les étudiants de collège biblique. Le serviteur de Dieu animé de l'esprit dur, fermé, ingrat et perpétuellement insatisfait ne peut pas produire un fruit. Il s'épuise, il devient dur et il communique cet esprit dur à ceux qui le forment. Mais le serviteur de Dieu qui marche dans l'action de grâce, la reconnaissance est que Dieu est bon et qu'il est fidèle et que je suis content, je me remercie Dieu pour toi et que tu es précieux pour moi et que je suis béni de vous avoir à mes côtés et que nous sommes bénis d'être ensemble et que nous sommes bénis de vivre à l'heure que nous vivons en ce moment. Quelle joie d'être au Québec en 2005 à faire l'œuvre de Dieu à l'Église de votre vie. Cet esprit-là, lorsqu'il se communique, il y a quelque chose qui arrive aux enfants. Il y a quelque chose qui arrive à nos épouses et nos époux. Il y a quelque chose qui arrive à l'Église. Je veux être un Ézéchias 2005. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a mis sa confiance en l'Éternel. Puis il y a quelque chose qui est dit de lui qui me fait frémir. Parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a pas eu de semblable à lui. C'est un homme qui avait, on pourrait dire, bon, maintenant ils vont donner la liste de ses qualités, la liste de ses talents incroyables, la liste de ses charismes, que lui avait quelque chose que personne d'autre avait. L'Éternel était avec lui. Il a du succès dans toutes ses entreprises. Quel est le secret d'Ézéchias? Et Dieu dit, voici le secret. Dans 2 Chroniques 31:2, Ézéchias fit se tenir tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, chacun selon sa classe, chacun selon son travail. En termes modernes, chacun selon son histoire, son témoignage, son arrière-plan. Et il établit tous les leaders, tous les lévites, tous les sacrificateurs. Il les a mis à une place, il a établi ce qui n'existait pas avant. Il les a établis pour les célébrations et les offrandes d'action de grâce. Thanksgiving offerings. De louanges et de célébrations et de reconnaissance devant l'Éternel. Il appela tout le peuple à demeurer ferme dans leur action de grâce devant l'Éternel. Ce que je veux faire ce matin, c'est être un Ézéchias moderne. Je veux rétablir au milieu de toute l'activité qu'il y a en Nouvelle Vie, de s'arrêter ce matin dans les dernières minutes de cet avant-midi pour essayer de répandre sur ce peuple un esprit qui dit merci. Un esprit qui dit merci. Un esprit qui dit, c'est comme si je disais ce matin, qui veut venir? Qui voudrait se joindre à moi pour remercier Dieu? Cette phrase-là, qui voudrait se joindre à moi pour remercier Dieu? Je peux l'avoir entendu sous différentes formes au fil des années, mais à chaque fois que moi je le dis, ça évoque une image. Il y a plusieurs années, je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et dans une des réunions, c'était pas supposé être moi qui y allais, mais le pasteur avec qui j'étais était malade cette journée-là pour m'envoyer faire doubler le nombre de réunions que je faisais dans cette journée-là. Je suis arrivé dans une prison africaine où il y avait des milliers d'hommes qui étaient là. Et quand je suis arrivé, on est entré dans un petit sentier, puis il y avait des grosses barrières puis tout ça. Puis il y avait pas de caméra permis, on pouvait pas prendre de photos, de films, quoi que ce soit. Et lorsqu'on est arrivé dans la prison, il y avait un corbillard, on suivait un corbillard, puis ils mettaient des corps nus dans le corbillard. Et lorsque je suis arrivé dans la prison, on est rentré vers les 10 heures le matin, puis on est resté jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Il y avait des milliers, le seul vêtement que les hommes avaient, c'est une espèce de, qu'on appellerait comme nous un sous-vêtement, juste couvrant leur partie génitale. Ils étaient complètement nus, pas de souliers, rien. Chaleur de plomb. Et c'est une des fois, probablement la seule fois dans ma vie où j'ai vu des lépreux. Il y avait des dizaines et dizaines de lépreux. Il y avait énormément de sidatiques. Et il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Et pendant qu'on était là, on était là de 10h à 2h de l'après-midi. Puis lorsqu'on est sorti à 2h de l'après-midi, il y avait 11 cadavres nus qui étaient morts pendant qu'on était là. Puis ils mettaient dans une fosse commune. Et pendant que j'étais là, j'ai rencontré un homme. C'est quelque chose, j'ai passé 4 heures avec lui il y a, je pense que c'est maintenant plus de 15 ans. Il s'appelait Antoine et sa vie, lui, il ne sait pas, mais il a marqué ma vie pour toujours. C'est un médecin africain, mais qui avait été élevé à Paris, qui a fait ses études en Europe et qui a excellé dans ses études, qui avait un cabinet à Paris, un chrétien, et qui avait un succès extraordinaire à Paris, financier, vivait la vie d'opulence. C'est un connaisseur d'art, d'opéra, toutes sortes de choses. C'est un homme de sa ville, un Européen très sophistiqué. Et un jour, dans une église, il a entendu un message où il a été saisi. Et Dieu lui a dit, saisi par l'appel de Dieu d'aller retourner vers son pays d'origine et de servir comme médecin missionnaire des gens qui souffrent. Et ça faisait 14 ans qu'il était à chaque jour dans cette prison. Et ce qui m'a marqué de lui, savez-vous c'est quoi? Je vous dis ceci devant Dieu. Ce qui m'a marqué de lui, c'est que tout le long que j'étais avec lui, je l'enviais. Avez-vous déjà été quelqu'un qui a le sentiment qu'il a quelque chose que tu n'as pas? Qu'on est chrétiens tous les deux, moi j'étais le prédicateur invité et je me sentais comme un midget. Je me sentais comme si j'étais si petit spirituellement à côté de lui. Il y avait une onction sur cet homme. Il y avait une joie que tu ne peux pas prétendre. C'était pas chiqué, c'était pas. Il y avait une joie, il était rempli de joie, rempli de. Il y avait un sourire éclatant. Il y avait tellement une assurance. Alors moi, j'ai amené mon message aux hommes et j'ai prié avec les hommes. Ils faisaient des choses qui m'ont bouleversé, comme pendant que j'étais en train de faire un appel au salut, de prendre des hommes puis de les amener proche de moi. Puis je demandais, voulez-vous que je prie pour lui? Il disait, non, ben, tu peux prier pour lui. C'est bien de prier pour lui, mais c'est surtout que je pense vraiment qu'il va être mort d'ici la fin de la journée. Je veux qu'il entende l'Évangile. Avec une paix, avec une joie. Puis lorsque ça a été terminé, on a eu une pause, puis il me partageait. Il était tellement une onction, je pleurais pendant qu'il me parlait. Parce qu'il me parlait de Jésus, de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il n'y avait aucun sentiment de martyr en lui. Il n'y avait aucun sentiment de « Et vous, les Nord-Américains riches et gras, puis moi, je suis le grand sacrificateur. » Non, non. Il n'y avait rien. Il y avait juste la joie. Il y avait juste. Puis à un moment donné, il dit, voulez-vous venir avec moi, parce que Claude, je voudrais, à tous les jours, à cette heure-ci, je m'adresse aux hommes. J'aimerais ça que vous soyez là avec moi. Puis il s'est mis à parler aux hommes. Puis c'était une réunion volontaire. Il y avait des centaines d'hommes qui venaient. Puis ils l'appelaient tous Papa Antoine. C'était comme leur père dans la foi. Puis il commençait à parler à ces hommes-là de Jésus-Christ, du salut, du pardon de Dieu. Et moi, je ne sais pas s'il y avait. C'est un médecin. Je ne pense pas qu'il a fait des études théologiques, mais j'étais assis là. Et c'était comme la plus belle présentation de comment Jésus est bon que j'ai jamais entendu. De comment est-ce que c'est grand de juste être pardonné, d'être lavé par le Seigneur, des bontés d'aller au ciel, les bontés de connaître Jésus comme notre Seigneur, tout le pardon qu'il a pour nous. Et à la fin de sa présentation ce matin-là, avec toute la joie qui débordait dans son cœur, il a dit ces mots. Est-ce que quelqu'un ici voudrait venir se joindre à moi pour remercier le Seigneur? Et moi, je me suis avancé avec les autres pour juste me joindre à lui, pour remercier le Seigneur. Quand on a quitté, un de ses assistants nous a dit, vous savez, Papa Antoine, il est très malade lui-même. Il a attrapé toutes sortes de maladies ici, il est très malade. On pense qu'il va mourir ici. Et toute ma vie depuis, je recherche le cœur de cet homme en moi. Je crois que la maturité chrétienne, que le fruit chrétien, que la beauté chrétienne est dans des hommes et des femmes qui apprennent à dire merci. Je crois que l'Église, elle est belle. Et sera beaucoup plus belle si elle est remplie d'hommes et de femmes qui apprennent à se dire merci les uns pour les autres. Que nos mariages vont aller beaucoup mieux si il y a des maris qui apprennent à dire merci à son épouse. Merci dans les petites choses. Merci pour le souper. Merci pour ta bonté. Merci pour comment tu es une bonne épouse. Merci à mes enfants. Merci à ma femme, à mon mari. Merci au Seigneur pour mon emploi, pour ma santé. Merci Dieu pour cette église qui est toute acceptée parfaite, qui est absolument imparfaite. mais où nous pouvons nous épanouir en Dieu et où Dieu fait tant de choses. Merci à chaque fois qu'une âme s'avance et accepte le Seigneur. Merci qu'on peut toucher 8000 personnes ensemble sur la rive sud de Montréal. Merci qu'on peut soutenir Haïti. Merci qu'on peut ensemble être vivants et avoir nos noms écrits dans le livre de vie et avoir la vie éternelle. Avant, j'étais un lépreux et maintenant, je suis pardonné pour l'éternité. Merci! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Alors, dans les prochaines minutes, il y a des gens de l'Église Nouvelle Vie qui vont venir dire merci. J'aimerais vous demander de prendre la petite feuille orange qui est dans votre bulletin. Tout le monde est de là. Je demandais à notre frère de venir placer le micro, s'ils veulent bien. Je demandais aux personnes de s'approcher. Je pense de s'approcher et de venir. J'aimerais que vous preniez la petite feuille. Montrez-moi que vous l'avez. Faites une offrande d'action de grâce. Je vous donne un devoir ce matin. On va vous appeler lundi pour savoir si vous avez fait votre devoir. J'aimerais que dans la prochaine journée, vous puissiez remplir cette feuille et dire, « Seigneur, nous nous tiendrons dans tes parvis avec reconnaissance et action de grâce. » En ce matin d'action de grâce, je veux remercier Dieu pour. Et vous allez remplir. C'est simplement des idées générales que vous allez remplir. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et vous allez l'écrire. Pour ma famille et mes amis, vous allez écrire leur nom et ce qu'ils veulent dire pour vous et vous allez leur dire. Pour notre Église, pour notre pays, pour les bénédictions au quotidien. Mes actions de grâce personnelles. Et ce matin, il y a quelques personnes de l'Église qui vont venir un après l'autre, quelques secondes chacun. Simplement dire merci à Dieu. Et pendant qu'ils offrent ces actions de grâce, que vous tenez votre feuille dans vos mains, pendant qu'eux offrent des actions de grâce, j'aimerais que vous aussi, là où vous êtes, vous commenciez dans vos esprits à remplir ce lieu d'action de grâce. Qu'on peut faire ça ensemble. Et pendant qu'ils le font, à la fin, on applaudira tous ensemble. Ils veulent simplement des gens qui vont dire merci. J'aimerais qu'ensemble, nous remplissions ce lieu. J'aimerais être comme Ézéchias ce matin et dire, Seigneur, nous appointons maintenant des gens de tous les âges, de toutes les classes, de tous les passés, de tous les arrière-plans, des leaders et des gens qui sont tout nouveaux, des jeunes et des gens de tous les âges, afin de remplir ce lieu de reconnaissance, de merci, de tu es bon, de tu es grand. Brise en nous l'esprit de critique et d'ingratitude, d'incrédulité et de froideur, et remplis-nous d'actions de grâce dans ces jours dans lesquels nous vivons. Et je débute ce matin en disant, je remercie Dieu pour vous tous. Je remercie Dieu pour le privilège de vous servir. Je remercie Dieu pour ma famille. Je remercie Dieu pour vous, ma famille. Je remercie Dieu pour ses bontés et son salut. Je remercie Dieu pour sa grandeur et le privilège que nous avons d'être réunis ensemble. Remplissez ce lieu d'action de grâce.
Bonjour, nous sommes la famille Gauthier. Nous voulons dire merci au Seigneur pour son infinie bonté dans notre vie familiale. Nous avons été séparés pendant un peu plus de 3 ans. Dieu nous a appris à s'aimer, à se pardonner des choses du passé et à faire attention à nos pensées, nos paroles et nos actions. Le sens de l'humour du Seigneur est très particulier, car dimanche dernier, on disait à notre couple de mentors que l'on n'irait plus donner notre témoignage à l'avant, pensant que cela n'aurait vraiment pas d'impact. Mais on veut obéir à Dieu, lui donner gloire sans cesse, et tout au cours de, au long de notre vie. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin.
Bonjour, mon nom est Benoît Laprade. D'abord et avant tout, je remercie le Seigneur pour ma famille, une épouse extraordinaire et 2 belles filles. Mais je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour sa paix qui m'est si précieuse. J'œuvre dans le domaine du courtage. Mon rôle est de prédire les actions à la bourse. J'ai pas besoin de vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, demandant, au niveau des heures, au niveau des voyages. Mais je sais, j'ai expérimenté que même si c'est un milieu qui est souvent très loin des choses de Dieu, parce que tout va vite, parce que c'est l'argent, que moi je sais, j'ai la paix, j'ai expérimenté que le Seigneur est là. Peu importe ce qui arrive, peu importe les moqueries, peu importe les injustices qu'on peut voir, Dieu est là, il est au-dessus de tout ça, il est tout-puissant et il pourvoit en toutes choses. Merci Seigneur.
Alors bonjour, nous on est la famille Echmeoré. Avoir été 3 ans en arrière, en ce moment où je vous parle, j'étais en train de jeûner mon mois de Ramadan pour Allah. Mais qui est Allah et où est-il? Moi j'ai trouvé. Mon Allah, moi, m'a pris alors que j'étais enceinte, reniée de tous et dans la débauche. Alors que je portais mon travail comme sécurité et mes 1,18 litres d'amis comme famille, Allah a mis des des gens sur mon chemin qui m'ont montré ce qu'était vraiment une vraie famille. C'est à ce moment-là que j'ai porté la foi en Christ comme sécurité et sa volonté pour mon chemin. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'au-delà d'un mari ou d'un bébé, il m'a donné l'amour, l'assurance et la paix que j'avais besoin. Merci Seigneur.
Bonjour, mon nom est Gino Auré. Je vous parle d'un homme qui avait comme idole la musique, qui avait comme idole l'argent, qui avait comme idole aller dans les clubs, danser, performer, chanter devant les gens. Mais qu'à un moment donné, Dieu est venu, puis il m'a donné ce qu'on appelle une jambette spirituelle. Il a coupé ma job, ma source d'argent. Il a coupé les amis, la source de musique. Puis pour rajouter, pour toutes les erreurs que j'avais faites, j'ai mis une jeune femme enceinte. Mais lui, il est puissant, puis il pardonne. Qu'est-ce qui m'a amené? Il m'a donné un emploi que je me rappelle même pas avoir appliqué à cet emploi-là. Il m'a donné une femme qui était dans l'islam, qui est devenue chrétienne, encore plus fervente. Il m'a donné un enfant en bonne santé qui est né le 25 décembre. Puis pour rajouter là-dessus, moi je suis devant vous maintenant en train de vous dire qu'est-ce qu'il a fait de bon. C'est pour ça que je lui rends grâce.
Bonjour, mon nom est Pierrette Vallée. Mon Dieu, nous te désirons en ce jour d'action de grâce te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous. Tu m'as guéri d'une paralysie faciale, tu as guéri ma jambe et tu nous as protégés lors d'un accident. Tu as guéri mon époux d'un cancer. Nous voulons aussi te remercier pour notre famille, notre couple, nos 7 enfants, nos 18 petits-enfants, nos 6 arrière-petits-enfants que tu nous as donnés, qui nous aiment tant et nous honorent. Merci, Seigneur.
Bonjour, mon nom est David Brou. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ma vie personnelle et professionnelle. J'ai une boîte de marketing et puis Dieu est vraiment l'architecte de la croissance de mon entreprise. C'est lui qui me fait rencontrer les bons clients au bon moment. C'est lui qui met sa main sur moi, qui me guide dans toutes mes décisions d'affaires. Il me donne la joie, l'immense plaisir de le servir par mon entreprise. Puis par-dessus tout, il m'a donné un intercesseur incroyable qui est ma mère, qui prie toujours pour moi, pour me permettre de signer mes contrats.
Bonjour, je m'appelle Cathy Hergeau. En ce jour d'action de grâce, je veux remercier le Seigneur parce que quand je regarde à ma vie passée, ce qu'elle était, les abus sexuels, les abus physiques, le rejet, les bars, la drogue, les infidélités, l'avortement, les paroles blessantes, les déceptions, toutes les masques que je portais pour pas laisser paraître comment j'étais envahie par la culpabilité, la honte, l'angoisse, l'insécurité, surtout la peur de déplaire qui m'hantait tout le temps. Je me rends compte qu'à cette époque-là, les mots possibilité, fidélité, stabilité, amour, pardon étaient complètement hors de ma portée. Mais aujourd'hui, Dieu est mon Père, Dieu est mon libérateur, ma paix, ma justice, ma vérité et ma joie. Je te dis merci Seigneur pour ton salut, pour ta grâce qui m'a sauvée, qui m'a portée, qui m'a protégée. Je sais que tu étais et que tu es aujourd'hui avec moi, auprès de moi. Tu es celui qui m'a délivré du filet de l'oiseleur. Ta fidélité, tes promesses sont incomparables. Ta souveraineté est sur tous ceux qui sont chers à mes yeux. Pour ça aussi, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour mon précieux mari, nos enfants pour notre vie. Je t'aime pour qui tu es, tout ce que tu es. Nul est comparable à toi, Seigneur. Merci, grâce à toi aujourd'hui, je crois en moi.
Bonjour, mon nom c'est Éric Tremblay. Je me posais souvent la question dans mon passé, que deviendrait mon futur? J'avoue que ce n'était pas de grands rêves d'espoir que j'avais. C'était plutôt sombre. Une soirée, alors que je me trouvais dans une cellule de prison, je souhaitais sortir de ce trou que je m'avais creusé moi-même. Tout ce que je pensais, c'était des rêves que je pouvais pas accomplir. C'était de la idéologie inatteignable. Je croyais que c'était impossible de sortir de ma misère. Je croyais que ma vie aboutirait à rien. Quand les gardiens de prison ont signé mes papiers de relâchement et ont dit « Rick, ça vaut pas la peine de signer tous ces papiers. » Tu vas revenir, on t'a aussi bien gravé ton nom dans la cellule. T'es un lifer. Cela venait juste confirmer le désespoir qui était en moi. Mais merci Seigneur que tu m'as pardonné de mes échecs passés. Merci comme ta parole le dit si bien. mes fautes passées sont aussi blanches que la neige. Je te dis merci non seulement à cause de mon pardon, mais merci de reconstruire mon présent et mon futur. Tu as pris une vie qui tournait en rond sans direction et signification. Et tu l'as rebâti pour lui donner maintenant un sens et un espoir pour d'autres. Merci.
Mon nom est Monique Dion. Mon mari Alain et notre fils Maxime. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour le double miracle qu'il a fait dans notre vie, Alain et moi, au cours des dernières années. Premièrement, pour le miracle de notre mariage restauré il y a 6 ans. À travers les soins pastoraux de l'Église Nouvelle Vie, nous avons réussi à nous pardonner réciproquement et à reprendre la vie commune après une séparation de plus de 2 ans. Merci Seigneur.
Ensuite, notre deuxième miracle est arrivé il y a 3 ans, lorsque nous avons eu l'immense joie d'avoir un fils, Maxime, alors que j'étais déjà dans la mi-quarantaine.
Lui aussi.
Mais là, je lis pour ma femme. Oui, notre Dieu est grand, et je le suis reconnaissante à chaque jour de cette nouvelle vie de famille qu'il nous donne. Amen.
Bonjour, mon nom est Claude Bouchard. J'ai 30 secondes pour raconter ma vie. Seigneur, tout ce que je suis et tout ce que j'ai aujourd'hui est le fruit non mérité de ton amour envers moi. Je suis parce que tu m'as accepté tel que j'étais et j'ai parce que tu m'as tout donné. J'étais convaincu que je n'étais rien, mais tu m'as accordé une grande valeur. J'étais convaincu que ma vie n'avait aucun sens, mais tu as donné un sens à ma vie. J'étais convaincu que ma vie serait inutile et sans but, mais tu m'as refait afin que je puisse participer à rendre la vie de centaines de personnes utiles avec de nouveaux buts. Les médecins m'ont diagnostiqué certaines maladies chroniques, mais tu m'as guéri. Le vase de ma vie était brisé, mais tu as fait de moi un vase restauré. L'ennemi m'avait prédit l'échec et la défaite dans le ministère, mais tu m'as donné la victoire. Seigneur, je veux te dire merci pour l'Église Nouvelle Vie, mon épouse et mes 3 filles, qui ont continué de croire en moi dans les pires moments de ma vie. Ma coupe était vide, mais aujourd'hui, elle déborde de joie. Que serait ma vie sans toi? Merci, Seigneur.
Elle me donne son temps. C'est avec humilité que je viens devant vous ce matin. Ma vie était juste finie que les policiers et les juges disaient. Dans mon dos, c'est écrit « gang de rue ». Oui, j'étais un membre de gang de rue. Ce que Pastor Claude dit souvent, Manuel, quand il est rentré, c'était pour faire ma peau. Ce qu'il disait, c'était vrai. J'avais de la haine dans mon cœur. Le lépreux que Pastor Claude parlait ce matin, là, c'est moi. Si je suis devant vous, c'est par recommandation. Parce que oui, j'ai l'étiquette de gang de rue dans mon dos. Mais aujourd'hui, j'ai une bannière. J'ai une robe. C'est l'amour de Jésus. Il m'a donné cette famille que vous voyez là. Cette femme merveilleuse. Dans Marc 1, 40, je ne viens pas vous prêcher, ceux qui me connaissent, je parle beaucoup, c'est vrai. Mais dans Marc 1, 40, il y avait un lépreux qui était recommandé par Jésus de retourner dans le temple. Je retourne vous dire merci. Mais merci à des hommes. Merci à Patrick Sinette, qui m'a accueilli chez lui, alors que j'étais bébé dans le Seigneur, puis j'avais besoin de prier. Merci à Serge Cusson, qui est venu donner son témoignage, alors que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Merci à Bob Costenzo, Alain Boismenu pour leur générosité. Merci à Claude Houd pour sa constance, semaine après semaine. Parce que je vous le dis, lorsque j'ai avancé en avant, mon cœur de pierre, il a fondu. Aujourd'hui, je peux prendre Claude dans mes bras. Thank you. Merci. Thank you. Thank you very much.
Bonjour, nous sommes la famille Robin. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir libérés de l'alcool et de la cocaïne. Nous te remercions d'avoir sauvé notre mariage et d'avoir donné un sens à notre vie. Merci de nous avoir permis de naître de nouveau. Et enfin, encore merci pour ton amour, ta fidélité et ta bénédiction.
Bonjour, mon nom est Philippe Desautels. Seigneur, je veux te rendre grâce pour le miracle Action Nouvelle Vie. Je veux te rendre grâce pour la joie que tu mets dans mon cœur quand, quand je donne du temps et de l'argent pour ton œuvre. Seigneur, je te remercie pour les guérisons, Seigneur Jésus, spirituelles et physiques que nous avons eues, moi et ma famille. Seigneur, je te remercie aussi pour Papa Claude, qui sait très bien nous enseigner tout le temps, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.
Deuxième Samuel 7, 18 nous dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Ce verset exprime bien ma reconnaissance auprès de Dieu pour le bien qu'il m'a fait jusqu'à aujourd'hui. En 1978, après 9 ans de mariage, mon épouse Élise et moi, on s'orientait vers le divorce. En 1978, sans trop y penser, je lui ai donné ma vie. Dans un dernier effort sans espoir, Élise avait fait la même chose quelques semaines auparavant et en quelques mois, elle avait complètement rétabli notre famille. J'ai été épargné une famille fragmentée, une femme seule et des enfants qui sont esselés. Notre situation financière était difficile et quelques semaines après avoir été sauvé, j'ai commencé à mettre en principe les principes de la dîme et des offrandes et en quelques mois aussi, ma vie financière a été complètement rétablie. Je veux remercier le Seigneur Jésus pour la famille qui est derrière moi, que j'aime et qui m'aime. Je veux le remercier pour une vie trépidante, heureuse. Je remercie Dieu pour le bonheur profond qui est établi en moi et que je vis à tous les jours. J'aime respirer à tous les jours parce que la joie est dans mon cœur. Amen.
Mon nom est Christine, mon mari Carole et notre famille. On veut remercier Jésus. Jésus qui a dramatiquement transformé nos vies personnelles et notre famille. Nous étions alcooliques, polytoxicomanes, adultères, séparés, angoisse, ressentiment, colère nous habitaient sans cesse. Et lorsque Jésus est entré dans nos vies, progressivement, il nous a transformés complètement. Nous sommes complètement sobres, réconciliés. L'amour et la paix règnent dans notre maison et dans notre famille. Et sachez que Jésus, sa parole, ça marche, ça fonctionne. Mais que plusieurs fois, on a cru que ce serait impossible, particulièrement lorsqu'on a retrouvé notre fils Jonathan pendu dans sa chambre.
Effectivement, la mort m'a environné. La boisson m'avait environné, la drogue m'avait environné. Mais Dieu m'a délivré. Il m'a donné la force de changer les choses dans ma vie. Il m'a délivré du mensonge, de l'amertume, toutes les choses qui me tenaient captive. En plus de me délivrer, il m'a donné une épouse merveilleuse. Il m'a donné 2 petits garçons que j'aime au bout. Il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné une passion. Il m'a donné un nouveau départ. Et maintenant, il me demande d'aller prêcher, d'aller témoigner, d'aller dire qu'il est bon. Et pour tout ça, je lui rends grâce ce matin.
Alléluia. Levons-nous ensemble et applaudissons le Seigneur de tous nos cœurs. Donnons-lui une ovation dans ce lieu. Merci. Allez remplissez ce lieu d'applaudissements pour votre témoignage, votre vie, votre histoire. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se prendre par la main à travers ce lieu et à travers les allées et lever nos mains vers Dieu et chanter merci en terminant? J'aimerais l'équipe de chant de commencer ce chant qui dit merci pour la croix, Seigneur, et que l'on puisse remplir ce lieu d'action de grâce ensemble. Levons nos mains Levons nos cœurs ensemble et remplissons ce lieu de reconnaissance.
Merci pour toi, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu, mais t'en es pas ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton cœur et j'ai
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.